Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le Fonds social de la RDC a un nouveau coordonnateur. Philippe Ngwala Malemba a pris ses fonctions ce jeudi à Kinshasa. Avant de rejoindre le Fonds social de la RDC, il était conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intérêt de développement communautaire. Le gouvernement provincial militaire de l'Ituri dresse le bilan de ses activités. Durant deux ans, plus de 350 villages récupérés des mains des groupes armés par les FRDC, près de 300 rebelles des ADF neutralisés et 40 autres arrêtés. Ulrich Crépin est l'invité de ce journal. Il est l'adjoint du chef de mission MSF Sud Kivu et chargé des opérations humanitaires. Il va parler de l'apport de MSF dans la prise en charge des malades des hôpitaux de Minova et Numbi après l'afflux de plus de 80 000 déplacés du Nord Kivu. Bonsoir à tous. À la présentation de ce journal, Noëlla Luzitu Kabambi. Le nouveau coordonnateur du Fonds social de la RDC, Philippe Ngwala Malemba, institution nouvellement créée par le président de la République, a pris ses fonctions ce jeudi et y place son mandat sous le signe des réponses aux attentes les plus pressantes à la fois du chef de l'État et de la population congolaise, comme il le dit aussi au micro de Jean-Marc Matwaki.
C'est sous le signe de répondre aux attentes, les attentes les plus pressantes du chef de l'État, qui sont également les attentes de la population congolaise. Vous savez que ce Fonds social de la République démocratique du Congo est un instrument qui doit contribuer à booster le social de la population et le vécu quotidien. Et donc la mission qui nous est donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République est une mission lourde. Face à de telles situations, j'ai souvent un sentiment mitigé. C'est le sentiment de la joie dû à la confiance placée à notre modeste personne par le chef de l'État. Et c'est aussi le sentiment de la mesure, de la lourdeur de la tâche qui est âpre, qui est dure de contribuer en tant que modeste personne à cette mission qui est celle de pouvoir aider la vision du président de la République et à la rendre effective et réelle sur le terrain pour le bien-être quotidien de la population. Et donc la remise et reprise vient de se passer. Nous avons commencé le travail aujourd'hui et nous allons le commencer avec la plus grande vitesse qu'il faut pour être à la hauteur de ses attentes.
Philippe Ngwala Malemba exerçait auparavant les fonctions de conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule présidentielle d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Plus de 350 villages qui étaient sous le contrôle des groupes armés ont été récupérés par les FRDC pendant le régime exceptionnel de l'état de siège en Ituri. Selon le rapport du gouvernement provincial militaire, à l'occasion de son deuxième anniversaire, ces opérations ont permis de neutraliser 300 rebelles des ADF et puis 40 autres ont été arrêtés. Outre l'approche militaire, on parle aussi des dialogues intercommunautaires initiés par le gouvernement et qui ont abouti à l'adhésion des différents groupes armés locaux au processus de paix pour la stabilité de la province. Isaac Rémo.
C'est depuis le 6 mai 2021 que l'état de siège a été instauré par les chefs de l'État à l'est de la RDC avec l'objectif principal de mettre fin à l'insécurité. Selon le gouvernement provincial, le bilan est positif sur les plans opérationnels. À Bounia, chef-lieu de la province, 712 patrouilles ont été menées par les FARDC qui ont permis d'écarter toutes les menaces qui pesaient sur la ville de Bounia. Plus de 500 bandits ont été arrêtés et 100 armes récupérées. Selon ces rapports, je cite, la ville de Bounia respire un air de paix et de tranquillité. À l'intérieur de la province, plus de 350 villages ont été récupérés par l'armée dans les territoires de Djougou, Mahagi, Mambasa et Irumu. Les bilans est de 300 rebelles ADF neutralisés, 80 se sont rendus et 40 autres arrêtés. Pour ce qui concerne les groupes armés locaux, tous ont signé des actes unilatéraux de cessation d'hostilité et adhéré au processus de paix grâce aux activités de sensibilisation et au dialogue intercommunautaire. Une centaine de miliciens de la CODECO et des FPIC ont déjà déposé les armes et sont cantonnés au site de Diango à 12 km. De Bounia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, quatrième jour ce jeudi, des journées villes mortes décrétées dans la ville de Beni par la société civile locale pour dénoncer l'insécurité dans la ville. Le Parlement d'enfants de Beni déplore cependant la paralysie des activités scolaires depuis le lundi 15 mai, date de début de ces journées villes mortes. Une situation qui impacte négativement sur le calendrier scolaire à trois semaines de la fin de l'année scolaire. Blessing Muteoulé, président de cette institution d'encadrement d'enfants, en appelle à la responsabilité des organisateurs de ces journées ville morte pour garantir le respect des droits des enfants. Il est au micro de Sadiki Aboubakar.
Perdre toute une semaine, ça serait déjà un chapitre pour des chapitres qui ne sont pas larges. Déjà, on ne finira pas les programmes si, du moins, les autorités ne choisissent pas prolonger. Mais aussi, de l'autre côté, on arrête les enfants d'aller à l'école. Il y a manifestation. Il y a de ces enfants-là qui iront même dans la rue accompagner les manifestants. À ce niveau-là, les enfants sont aussi victimes d'arrestations et même des blessures, des balles perdues. Je suis en train d'appeler les manifestants, notamment la société civile et certains groupes de pression, de manifester, mais qui laissent que les élèves partent à l'école et que les enseignants partent enseigner. Parce que nous, les élèves, on constitue déjà un cadre futur qui pourra contribuer au développement et à l'éradication de l'insécurité dans notre zone comme nous le désirons tous. Aux autorités scolaires aussi, d'accélérer un peu plus avec la matière, s'assurer aussi de la bonne compréhension lorsque nous allons revenir à l'école, notamment d'abord pour nous les finalistes, parce que si on ne finit pas le programme, on risque aussi d'aller cocher ce qu'on ne connaît pas à l'examen d'état.
Pendant ce temps, la situation sécuritaire reste volatile dans la cité de Bweremana, groupement de Mufunishanga, chefferie des Baoundé, territoire de Masisi. C'est à environ 50 km au sud de la ville de Goma. Et pour cause, la présence des combattants des quelques groupes armés dans la cité et ses environs après le retrait du M23 dans les environs de la cité de Sake. Pour prévenir justement les risques de menaces contre les populations civiles et les personnes déplacées, la MONUSCO envisage d'installer une base temporaire des casques bleus à Bweremana. Suivez ce compte-rendu de Gabriel Wamenia.
Depuis le départ du M23 des environs de la cité de Sake et d'autres zones du territoire de Masisi, précédemment contrôlées par le M23, la situation générale en matière de sécurité à Bweremana est restée volatile et imprévisible. Plusieurs incidents sécuritaires y sont régulièrement signalés. Le départ du M23 de ces zones a entraîné une présence accrue des groupes armés locaux dans la région. Bien que l'afflux massif des personnes déplacées de Sake vers Minova s'est calmé, la situation sécuritaire et humanitaire à Bweremana reste critique et le retour des personnes déplacées dans leur village d'origine reste hypothétique, car la plupart n'ont pas la confiance dans les retraits du M23. Et pour parer à tous ces aléas sécuritaires, la présence d'une base temporaire de casques bleus est opportun dans la région de Bweremana. C'est pourquoi la population souhaite que la MONUSCO change de stratégie, comme le dit Floribert Buholo, président de la société civile.
Par rapport à la sécurité, nous avons proposé à ce que la MONUSCO change un peu de stratégie. Ça veut dire qu'elle soit un peu offensive selon la demande de la population.
Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
La mission interagence des Nations Unies a remis hier mercredi à Chikapa, province du Kasaï, en présence des représentants des bailleurs de fonds, des bâtiments entièrement réhabilités et construits dans le cadre du projet PBF. Il s'agit des bureaux de l'inspection provinciale de la police dans le Kasaï et des plusieurs salles de l'INPP, de matériel roulant, informatique et de formation. Avec cette acquisition, l'implantation de l'antenne provinciale de l'inspection générale de la police nationale congolaise devient effective et sa visibilité renforcée, a dit l'inspecteur provincial de la police au Kasaï. Pour sa part, Bruno Lemarquis, coordonnateur résident à RDC, a salué les progrès réalisés dans la province du Kasaï pour amener la paix et la stabilisation. Envoyé spécial à Chikapa, Jean-Désiré Kanyama.
Sentiment de satisfaction et des remerciements aux partenaires, notamment les PNUD pour cet accompagnement, a dit le chef de l'antenne provinciale d'inspection générale de la police, Rémi Vongo.
À ce jour, l'implantation de l'antenne provinciale et l'inspection générale de la police nationale congolaise devient effective et sa visibilité renforcée.
Pour le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, à travers le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, plusieurs projets stratégiques sont exécutés au Kasaï. Gaston Koleti Mwanga.
Particulièrement le projet renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique mise en œuvre par les consortiums OIM, ONIFAM et PNUD.
Le coordonnateur humanitaire en RDC reconnaît les progrès réalisés pour ramener la paix et la stabilisation. Bruno Lemarquis.
Il sied de rappeler que plusieurs initiatives de réconciliation ont été initiées par les autorités, notamment la conférence de paix tenue en septembre 2017 dans la région, définissant les premiers jalons en faveur de la réconciliation entre les communautés avec l'appui notamment des agents du système des Nations Unies.
Quid de l'utilisation de ces ouvrages et autres matériels?
Je vous rassure de l'utilisation judicieuse de ces matériels et équipements en bon père de famille.
La réhabilitation entière de tous ces bureaux ainsi que leur équipement offre un cadre digne pour le bon fonctionnement des services et de la police nationale et de l'INPP. Chikapa, Jean-Désiré Kanyama, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière, CNPR Maniema, se dit indigné du comportement de son partenaire ASECO, Association des chauffeurs du Congo. Ce dernier affirme que l'ASECO ne respecte personne, ne respecte rien et crée même des parkings en plein centre-ville sans l'aval de la CNPR Maniema. De l'autre côté, l'ASECO se dit également découragé par le comportement de la CNPR qui récolterait de l'argent auprès de ses membres sans aucune preuve ni traçabilité. Florence Kizalunga.
La CNPR est un service public de l'État qui a pour mission de proposer au gouvernement une politique concertée sur la prévention des accidents routiers. Mais au Maniema, elle s'est dit être étouffée par l'ASECO. Kawaya Malekangwe, le directeur.
En tant que service public de l'État, nous avons des partenaires. Parmi les partenaires, il y a ASECO. Et cette association, au niveau du Maniema, nous fait les barrières, ne nous permet pas vraiment de bien travailler, du fait qu'il a ses éléments disséminé à l'étendue de la province du Maniema. Il donne des ordres allant dans le sens de ne pas coopérer avec mon service. Vous remarquerez au niveau du marché là-bas, la SECO s'est donné le droit d'ériger un parking dans la rue sans qualité ni titre.
La SECO justifie sa position par le mauvais comportement de la CNPR. Massoudi Manara, porte-parole de ASECO.
Si ASECO refuse de travailler avec CNPR, c'est vu son comportement. Il est chargé de la prévention routière, mais lui se donne beaucoup dans les taxes des motos, des véhicules, de parking. Les messieurs de CNPR qui étaient venus auparavant, on avait confié l'argent. Les messieurs partis, on ne connaît même pas la destination. Alors, à cause de ça, nous demandons une table ronde pour connaître d'abord l'argent là, il l'amène où.
C'est en vain que nous avons tenté de joindre le maire pour ce dossier. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Montrer aux Congolais de toutes les catégories sociales ou professionnelles qu'il est possible de se lancer dans l'élevage du poisson pour sa consommation personnelle ou pour accroître sa production au niveau du pays. C'est le but de la deuxième édition de la journée du poisson et de la culture organisée hier mercredi par la coopérative agricole dénommée Bilangaya Betu. Cadre choisi, le site touristique Symphonie Naturelle dans la commune de Ngaliema. Un reportage de Babel Mpongo Masimango.
Elles étaient environ 150 personnes à prendre part à cette activité. Parmi elles, des membres de cette coopérative, des représentants de l'UNIKIN, des élèves de l'Institut de Technique Agricole de Mombele Limité, des enfants et autres invités évoluant dans divers secteurs de la vie. Sur ce site, au milieu des arbres et des étangs, ils ont vu et reçu des explications sur la production des poissons de l'élevage, tels le poisson-chat et le tilapia, cela en partant de l'extraction des œufs. C'était l'émerveillement pour les visiteurs, dont les élèves, qui ont pu à cette occasion pêcher pour plusieurs les premiers poissons de leur vie.
Attrapé deux mois même, ça c'est le troisième.
On a appris beaucoup de choses et on a aussi concilié la théorie de l'école à la pratique d'ici.
Docteur Serge Mbaye, initiateur de Bilangaya Betu, explique le but de cette activité.
La RDC, nous pouvons annuellement produire 700 000 tonnes de poissons. Ce sont les experts qui le soulignent. Et nous importons 100 000 tonnes chaque année. C'est une journée d'initiation à la pisciculture. On peut la développer en étang, en bac, chez soi à la maison, en cage, sur le fleuve, le lac. Nous voulons faire découvrir toutes ces opportunités aux Congolais.
Bilangaya Betu existe depuis 2017. Elle rassemble plus de 1000 membres de différents métiers, mais tous s'adonnant à la production et à la transformation agricole.
Ce jeudi 18 mai 2023, c'est la journée internationale des musées. Musées, durabilité et bien-être, c'est le thème de cette année. Plusieurs activités sont organisées jusqu'à dimanche dans les différents musées nationaux à travers le pays, notamment des journées portes ouvertes. Reportage, Jemima Mbuyulu.
Jean-Pierre Bokole Ompoka, directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo, dresse un état de lieu des musées de la RDC. Il évoque aussi les difficultés qu'il rencontre.
L'objectif, c'est d'avoir un minimum un musée par province, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau, étant donné les difficultés organisationnelles, logistiques et financières, parce que le budget de subvention et d'intervention économique et scientifique de l'Institut national des musées ne nous permet pas encore à fort fonctionner à bon escient les différents musées que nous avons, mais avec les efforts du gouvernement et de quelques partenaires, nous sommes rassurés que petit à petit, nous cheminons dans le bon.
Le thème de cette année, musée, durabilité et bien-être, met l'accent justement justement sur l'importance de prendre soin de ces lieux, gardiens des patrimoines culturels inestimables.
Les musées constituent des espaces d'échange culturel et mutuel qui regroupent le peuple et qui contribuent au développement durable et même le bien-être de chacun de nous. C'est un lieu de rencontre. Nous observons la culture de nos ancêtres. Nous nous faisons réminiscence à ce que les ancêtres ont vécu. Du coup, ça nous réconforte au niveau matériel et immatériel.
À Kinshasa, la cérémonie a connu la participation de la ministre de la Culture.
Actualité internationale.
Des centaines de Rwandais, Burundais et RD Congolais, dont certains tenaient des commerces illégaux, ont été arrêtés à Lilongwe au Malawi après avoir refusé de retourner dans un camp de réfugiés. Le ministère de la Sécurité intérieure a précisé que 408 réfugiés et demandeurs d'asile, y compris des enfants, ont été interpellés dans le cadre d'une opération policière lancée hier au petit matin dans plusieurs townships de la capitale. Ces arrestations interviennent 2 mois après un ultimatum lancé par le gouvernement malawite pour que ces réfugiés retournent au camp surpeuplé de Dzaleka, à quelques 40 km de Lilongwe. La plupart des réfugiés et des demandeurs d'asile au Malawi viennent de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi.
L'invité.
Les équipes d'urgence de Médecins Sans Frontières dans la province du Sud Kivu ont pris en charge 1063 patients dans les hôpitaux de Minova et Numbi, des patients composés principalement des enfants malades de la rougeole et de choléra, dans le cadre d'une réponse d'urgence mise en place pour soutenir les autorités sanitaires dans la zone de santé de Minova avec l'arrivée de plus de 80 000 déplacés du Nord Kivu. Quelle est cette intervention d'urgence qu'apporte MSF à ces déplacés? Quelles sont les différentes maladies qui les touchent principalement? Comment MSF intervient dans l'aide face à la catastrophe de Bouchouchou et Niamoukoubi? Ulrich Crépin, adjoint chef de mission de MSF Sud Kivu et chargé des opérations humanitaires, répond aux questions de Rachel Kessembango.
Ulrich Crépin, bonjour.
Bonjour madame.
MSF intervient dans la zone de santé de Minova sur les déplacés ayant fui les affrontements dans le Nord Kivu. Parlez-nous de cette intervention.
C'est une intervention qui a commencé depuis le mois de mars. Une intervention focalisée sur l'appui aux victimes de ce conflit dans le Nord Kivu, notamment les déplacés, et aussi focalisée sur la flambée des cas de rougeole que nous avons connus dans la zone de santé de Minova.
La réponse d'urgence que vous apportez, vous la qualifiez de complexe. Pourquoi ?
Je qualifie cette réponse de complexe parce que ce n'est pas seulement une composante qu'on est en train de développer. Il faut voir tout le paquet en question de besoins humanitaires pour les personnes déplacées en provenance du Nord Kivu. Et nous avons une épidémie comme la rougeole qui s'est ajoutée. Et bien évidemment, avant cette épidémie de rougeole, on avait aussi des cas de choléra qu'il fallait faire la prise en charge. Tout ça, quand tu le mets ensemble, ça fait une réponse assez complexe qu'il faut chaque jour voir comment développer et être à mesure de répondre aux besoins des victimes qui sont arrivées de Nord Kivu.
Combien des déplacés ont été touchés par l'intervention d'urgence de MSF dans la zone de santé de Minova?
Aujourd'hui, c'est difficile de vous donner des chiffres de combien des déplacés ont été touchés, mais ce qui restait sûr, c'est que nous avons ouvert notre intervention à l'endroit de tous les déplacés qui sont arrivés à Minova, aussi la population autochtone, parce que dans les structures de santé où on intervient, on soigne tout le monde, pas seulement les déplacés. Et on sait qu'avec tous ces chiffres qu'aujourd'hui les autorités avancent, plus de 80 000 déplacés et que vraiment ces chiffres restent volatiles parce que ça change à tout moment. Il y a des allées et des retours entre les deux provinces du Sud et du Nord Kivu.
Alors, MSF fait un constat sur une forte augmentation des cas de rougeole et une assistance très limitée aux déplacés dans la zone de Minova. Alors, que fait MSF concrètement pour pallier à cela?
Pour parler à cela, chaque jour, nous continuons de renforcer notre évaluation pour être à mesure de détecter à temps les besoins humanitaires. Nous assistons à tout ce qu'on appelle les réunions de coordination des humanitaires, que ce soit au niveau provincial, au niveau de la zone de santé. Nous parlons avec les autorités pour que vraiment les efforts puissent être consentis et de répondre à tous ces besoins. Et bien sûr, nous, on reste aujourd'hui très focalisés sur la prise en charge médicale des personnes les plus vulnérables, notamment les cas de rougeole, les enfants de moins de 15 ans, et aussi répondre à ce qu'on appelle la prévention de choléra, qui, je pense, que reste une composante très importante en développant tout le paquet WASH, mise en place des dispositifs sanitaires, les toilettes, les douches sur les sites collectifs, sur les camps des déplacés, mise en place aussi de faciliter l'accès à l'eau potable, les points de chloration. Donc c'est tout ce paquet qu'aujourd'hui on est focalisé là-dessus, en continuant bien sûr à en parler avec les autres acteurs humanitaires.
Aujourd'hui, vous rassemblez la presse. C'est quoi l'objectif de ce point de presse?
L'objectif, c'est de rappeler la situation aujourd'hui dans la zone de santé de Minova. De dire à la communauté humanitaire, aux autorités, que nous avons une population dans cette zone de santé qu'il faut continuer à assister. Là où l'accès est très difficile, notamment dans la partie haut plateau de la zone de santé de Minova, il faut y arriver, il faut continuer à monitorer les besoins humanitaires et à adapter les réponses selon ces besoins.
Aujourd'hui, tous les humanitaires sont présents, toujours dans le territoire de Calais, mais précisément dans les villages de Bouchouchou et de Niamoukoubi, suite à la catastrophe qui a eu lieu dernièrement. MSF intervient comment ?
Pour un début, on était beaucoup plus focalisé sur la prise en charge des blessés, parce qu'il faut sauver les vies dans l'immédiat. Et c'est ce que nous avons fait en organisant des évacuations sur Bukavu, en étant sûr aussi qu'il y avait la disponibilité de médicaments dans les structures de santé touchées pour la prise en charge de ces blessés. Aujourd'hui, la situation a évolué. Nous avons beaucoup plus de victimes. En termes de bilan humain, il y a eu plus de décès. Les autorités sont en train de travailler là-dessus. Et nous, de notre côté, nous continuons un peu la surveillance. Il y a pas mal des humanitaires qui sont arrivés, les agences des Nations Unies, MSF, on va continuer avec la surveillance parce que nous craignons aussi la survenue de certaines maladies, des épidémies. Donc c'est important de continuer la surveillance, de se rassurer comment évolue la situation en collaboration avec les autorités sanitaires, et au besoin, MSF sera toujours là pour continuer à participer à cette réponse à l'endroit des sinistrés de Bouchouchou et de Niamoukoubi.
Ulrich Crépin, je vous remercie.
Je vous remercie, madame.